La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Grosse nouvelle qui est tombée hier, mon cher Pierre-Yves, c'est-à-dire Candrel là, qui veut acheter Cominar.
Oui, et...
On est dans le monde de l'immobilier.
Dans le monde de l'immobilier commercial, bureau, votre centre commercial préféré, on veut privatiser Cominar, puis c'est une offre d'achat sur un fonds de placement immobilier. Dans le fond, il y a plein de gens, puis plein d'entreprises, dont la Caisse aussi de dépôt de placement du Québec, qui se dit... Il y a certains investissements immobiliers qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire directement. Tu sais, si vous n'aimez pas ça, gérer des quintuplex, vous pouvez acheter un fonds de placement immobilier, des parts, puis coter en bourse, puis simplement être propriétaire par l'entremise d'une entreprise. Puis c'est ça, Cominar. Puis là, Cominar, depuis plusieurs années, Paul, ça se cherche. T'sais. On a essayé beaucoup de choses pour revitaliser nos investissements. Par exemple, on a essayé dans les centres commerciaux de faire... une tournée de pop-up store, c'est-à-dire que, tu sais, des espèces de magasins temporaires, mais qui avaient assez de valeur pour annoncer. Par exemple, tu prends une marque, tu dis, telle entreprise va venir faire un tour à Rimouski ce mois-ci. Donc, tu vois, ça générait une tentative de ramener les jeunes dans les centres commerciaux. Là, on voit que depuis un an, on nous a dit, on veut revoir notre position stratégique. Ça, en français, ça veut dire on est à vendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit une transaction qui va impliquer Mac, un autre groupe immobilier, et Blackstone, un fonds américain. Et ce qui est drôle, Paul, c'est que ma mémoire étant ce qu'elle est, totalement avec des informations inutiles, il y a, à une autre époque, une entreprise québécoise qui s'appelait Unigesco, qui voulait mettre la main sur Provigo. Okay?
Ouais.
Et il voulait faire ça avec le fonds Blackstone. Et ça avait créé un tollé politique incroyable. Laisser les Américains venir mettre la main sur notre capitale de Provigo, tu comprends? Et tu vois que les temps ont changé depuis ce temps-là. Ça a été acheté par des intérêts ontariens. Puis là, que Cominar soit acheté par un groupe en partie américain, bof! Tu comprends? On voit que le monde change. La mondialisation a fait son œuvre sur les politiciens aussi. Mais pour l'investisseur, dont j'ai déjà été chez Cominar, bol, c'est que ça n'a pas été très flamboyant depuis 2012. L'action, pas l'action, mais la part a perdu beaucoup de valeur. Puis tu te dis, dans une période où l'immobilier a explosé, c'est un peu impardonnable pour un fonds de perdre autant de valeur. D'ailleurs, à cause de la pandémie, ça a été épouvantable. Il y a eu ce qu'on appelle en comptable des write-offs, c'est-à-dire des ajustements de valeur, parce que le fonds évaluait son immobilier à la juste valeur marchande. Mais comme les centres commerciaux pendant la pandémie, ils ont mangé à claque, comme on dit, ils ont été obligés d'évaluer de plusieurs centaines de millions et donc ça a dévalué beaucoup les revenus tellement que les pertes trimestrielles sont importantes. Donc on a hâte de voir, mais faut lever notre chapeau à ceux qui investissent parce que c'est pas facile présentement de savoir l'avenir des
non,
espaces commerciaux.
Et, écoute, on a beau avoir le rapport de jeudi sur le centre-ville de Montréal. Tu sais, moi, je regarde là ce que les auditeurs me racontent. Là. Oui, on revient un peu plus. Mais,
un peu,
mais on ne reviendra pas à 5 jours semaine. Là.
Non, puis on le voit là, physiquement. Moi, quand je vois dans le journal, ce matin, je vois « le centre-ville revit ». Je ne sais pas quel centre-ville il parle, parce que moi, quand j'y vais, j'ai aucun problème de me stationner. J'ai l'impression d'être tout seul. Puis quand il est 3h de l'après-midi, j'ai l'impression qu'il est 9h le soir. Tu sais, il y a vraiment une perte de vitalité apparente. Puis les commerces en souffrent. Écoute, Cominar, c'était 310 immeubles total. Donc imagine comment c'est. Puis un immeuble, on parle d'un centre commercial, c'est un immeuble. Donc c'est vraiment impressionnant comme transaction. Puis j'ai hâte de voir le développement futur de tout ça.
Ah, l'amour, le couple, c'est important. Alors, c'est la question que tu poses ce matin. Qui prend le risque financier, par exemple, dans le couple? Puis à qui appartient le rendement ou les pertes quand on a un risque?
Et à force d'analyser le sujet...
Donne-moi un exemple que... ce que ça veut dire.
Un exemple bien frappant. Tu te maries. Bon, là, les gens vont dire, Pierre-Yves, rien de nouveau. D'accord. Tu te maries en séparation de biens, mettons. Ça, c'est un régime, tu sais, matrimonial où tu dis, il y a une portion des choses qui nous appartient à chacun. Et donc, tu te maries en séparation de biens et puis la dame ou le monsieur met tout dans son REER ce qu'il y a à mettre puis paye sa juste part de la maison. L'autre personne dit, écoute, moi, je veux prendre un peu plus de risque. Puis je vais investir hors REER, hors CELI. Puis tu sais, on va retarder le paiement de la maison sur 25 ans pour qu'on investisse plus en bourse. Fait que là, deux, tu te dis, OK, on va payer moins la maison. puis on va investir plus en bourse. C'est une décision de couple, Paul, je suis bien d'accord. Le problème, s'il arrive un divorce, la maison est dans le patrimoine. Le REER de madame est dans le patrimoine, mais l'investissement en bourse hors REER n'est pas dans le patrimoine. Et donc, on a pris un risque de couple, mais légalement, le rendement est séparé de ce qui appartient au couple. On va aller plus loin. T'as une personne qui dit, moi, je veux prendre du risque, j'ai un profil de risque très grand. Puis ce conjoint ou la conjointe dit, sais-tu quoi, j'embarque parce que moi, je suis très peureux, je suis plus placement sécuritaire. D'accord. S'il y a une explosion du rendement dans le placement à risque, puis les personnes se séparent, la personne va dire, hey, c'est moi qui ai pris le risque, c'est à moi le rendement. Mais si jamais cette personne-là s'était plantée, elle aurait dit à son conjoint-conjointe, tu me dois assistance, nous avons été un couple et donc tu dois payer une partie des pertes. Tu vois comment, ce qui est très drôle...
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, il faut s'entendre à chaque année, redistribuer les actifs à chaque année, puis se dire à chaque année, est-ce que si on se séparait légalement, il y aurait une juste pondération du risque et du rendement? Et Paul, on peut aller très loin là-dedans, parce que pense-y, t'es entrepreneur, tu laisses tout l'argent dans ton Inc, puis tu dis à ton conjoint-conjointe, on va pas retirer de l'argent du Inc pour se payer un salaire, on va payer de l'impôt personnel. On va attendre, le conjoint se dit, hey, en gestion de risque, c'est intelligent, mais le conjoint a pas de part dans l'entreprise. Et met son REER au conjoint, lui, est dans le patrimoine.
C'est toujours la même leçon, faut mettre ça clair.
Mais pas juste mettre ça clair, il faut pondérer le risque annuel des placements, répartir les gains de valeur annuellement, puis s'entendre annuellement. Fait que, tu sais, un couple, c'est comme un peu, je sais pas, moi, c'est une recette, tu sais. Quand tu vois qu'il y a un dépassement de tes cachets, ou qu'il y a trop d'épices, ou que ça manque de sel, faut repondérer ça. Mais les placements, c'est la même chose. Mais regarde bien ça, là. Les gens qui écoutent présentement, si je vous dis qui prend le risque présentement dans votre couple, à qui appartient le rendement, je te dis, il y en a qui n'ont pas la réponse.
Merci, monsieur.
Salut.
Bonne journée.
C'est 23.